Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Mardi prochain, 5 février, le monde chinois célébrera à son tour la nouvelle année, une année qui s'inscrit sous le signe du cochon. Tout est bon en principe dans le cochon, pourtant les tensions s'amoncellent dans cette partie du monde et le premier foyer se situe dans un détroit, le détroit de Formose, qui en son point le plus étroit, à moins de 8 km de large. D'un côté, une île de 23 millions d'habitants, de l'autre, un pays continent qui en compte 1 milliard 300 millions. D'un côté, une démocratie au statut international ambigu, de l'autre, un régime de plus en plus autoritaire qui réaffirme avec force ses ambitions hégémoniques. Il y a un mois, tout juste, à Pékin, dans un discours retentissant, Xi Jinping, le président chinois, réaffirmait sa volonté de récupérer Taïwan au besoin par la force, et il proposait à tout le moins la même solution qu'à Hong Kong, un pays, deux systèmes. Hors de question, a répliqué son homologue de Taipei, insistant sur les valeurs démocratiques et le mode de vie cher à ses concitoyens. Comment Taïwan peut-il tenir et continuer à louvoyer entre les interdits imposés par Pékin à la communauté internationale? La République de Chine, c'est son nom officiel, représente la 21e économie mondiale, un exploit financier et technologique par rapport à sa taille. Jusqu'où peut aller le soutien diplomatique et militaire de Washington en plein bras de fer commercial avec son concurrent chinois? Quelle est la stratégie de Pékin pour affirmer son hégémonie ou accroître son influence sur les différents théâtres asiatiques? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Françoise Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. Mathieu Duchâtel, merci d'être avec nous. Vous dirigez maintenant le programme Asie à l'Institut Montaigne. Stéphane Corcuff est avec nous par téléphone de Lyon. Merci d'être là. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lyon et vous avez été pendant 4 ans, me semble-t-il, le directeur de l'antenne de Taipei du Centre français sur la Chine contemporaine. Par téléphone aussi. Tout à l'heure, Valérie Niquet, responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Mathieu Duchâtel, commençons bien sûr par ce discours du président chinois, c'était le 2 janvier dernier, un discours, si j'ai bien compris, qu'il a prononcé pour commémorer un anniversaire bien particulier concernant les relations extrêmement bizarres, historiques et économiques, culturelles, politiques, entre pour simplifier, la Chine communiste et la Chine démocratique.
Alors, oui, tout à fait. Ce discours de janvier de Xi Jinping, il l'a prononcé à l'occasion du 40e anniversaire du message aux compatriotes de Taïwan, prononcé en message envoyé aux Taïwanais par l'Assemblée nationale populaire de Chine en 1979, donc une année charnière sur de nombreux plans, d'abord parce que c'est l'année de l'établissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine et la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et la République de Chine à Taïwan, et parce que c'est le moment, dans ce contexte géopolitique changeant, où la Chine abandonne sa politique de réunification par la force, de libération de Taïwan par la force, pour passer à ce qu'elle appelle encore aujourd'hui une politique de réunification pacifique. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que la Chine a abandonné l'usage de la force comme option pour forcer une réunification avec Taïwan.
D'autant que c'est précisément ce que Xi Jinping a dit le 2 janvier. Il a dit « au besoin, par la force ».
Oui, tout à fait. Mais les outils de politique taïwanaise de Pékin sont déjà bien arrêtés. La loi anti-sécession de 2005 explique clairement que dans certains cas, au premier plan, une déclaration d'indépendance de Taïwan, la Chine aurait recours à l'usage de la force pour forcer une réunification. Il y a bien sûr d'autres outils, mais cette option militaire est toujours là, malgré cette transition de 1979 à une politique de réunification pacifique. Ce qui était important en 1979, c'était cette décision chinoise de pousser pour avoir avec Taïwan des relations humaines, qui n'existaient pas jusqu'en 1979. Donc c'est après 1979, quand les Taïwanais finissent par accepter cette offre à la fin des années 80, que petit à petit, les relations humaines se nouent entre les deux rives, puis arrivent à des relations aériennes et maritimes directes dans les années 2000, etc.
Néanmoins, ce discours donc d'il y a un mois est intéressant par ces éléments de langage où le président chinois invoque les liens du sang et il traite, en fait, il considère ce semi-divorce avec Taïwan comme, je cite, un accident de l'histoire dû à la faiblesse de la nation à cette époque-là.
Oui, alors c'est tout à fait la manière dont la question de Taïwan est perçue à Pékin. Un moment de faiblesse qui a été exploité par les États-Unis, une guerre civile inachevée avec le Kuomintang. Mais c'est bien sûr pas la manière dont aujourd'hui les principaux partis politiques taïwanais, l'offre politique à Taïwan, considèrent les relations entre les deux rives.
Avant de vous demander, Stéphane Korkuff, de nous expliquer l'histoire tout à fait singulière de cette petite île chinoise, j'ai oublié, je vous en demande pardon, de présenter aussi Benoît de Tréglaudet, qui est directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire et qui nous expliquera tout à l'heure les différents théâtres asiatiques sur lesquels Pékin entend exercer plus que son influence et parfois son hégémonie. Mais Stéphane Korkuff, expliquez-nous donc l'histoire singulière de Taïwan, à grands traits bien sûr, mais depuis 1949, c'est-à-dire depuis que Chiang Kai-shek y trouve asile.
Alors, la situation de l'île à ce moment-là est très particulière dans l'histoire globale de la Chine moderne et contemporaine, parce que en 1895, l'empire mandchou perd une guerre contre l'empire nippon, et c'est une guerre qui a pour objet le statut de la Corée. Taïwan n'a rien à voir avec, mais Taïwan en fait les frais et est cédé à perpétuité au Japon. Et c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale perdue par le Japon qui va entraîner Chiang Kai-shek et les alliés à décider le retour de ces terres prétendument volées par le Japon à la nation chinoise, qui commence à voir Taïwan très tard dans l'histoire, hein, c'est-à-dire à partir de 41-42 en pleine guerre, comme un instrument à mobiliser pour contrer l'invasion japonaise en Chine, pour mobiliser les Chinois derrière. Donc Taïwan, en fait, ne fait plus partie du projet national ne fait pas partie du projet national chinois de la Jeune République fondée en 1912 et ne le sera pas avant les années 40. Mais la guerre explique que tout d'un coup Taïwan devient cet enjeu, et ce qui va complexifier énormément les choses, c'est que ce nouvel enjeu qui est fraîchement, disons, rattaché à la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek en 1945, devient le lieu d'exil de ce leader qui a perdu la guerre civile contre Mao. Donc voilà le statut de Taïwan en 1945. L'île est récupérée par la Chine nationaliste, même si en droit international c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et tout de suite, 4 ans après, en 1949, elle devient le lieu de repli de Chiang Kai-shek.
Et c'est à ce moment-là que Chiang Kai-shek et le Kuomintang mettent en place une loi martiale qui va durer pendant 38 ans.
Voilà, c'est la plus longue de l'histoire. Alors elle est mise en place très peu de temps avant l'arrivée des troupes nationalistes qui veulent contrôler la situation parce qu'ils sentent bien quelque part que c'est leur dernier retranchement. Je rajouterai un petit élément à ce que vient de dire mon collègue Mathieu, qui est extrêmement juste, sur la guerre civile inachevée. Ça décrit très bien la réalité, puisque le Kuomintang part à Taïwan. Je dirais, petite inflexion par rapport à ce que dit Mathieu, c'est que je suis pas sûr que la Chine le dise tel quel. En fait, elle le sait, elle le pense, mais elle ne le dit pas, parce que ça reviendrait à dire qu'effectivement, si la guerre civile est inachevée, alors la République de Chine qu'elle cherchait à abattre existerait toujours et qu'elle existerait à Taïwan, ce qui est une évidence que tout le monde sait, mais que la Chine, justement, ne veut pas dire.
Mais il faut quand même insister sur ce règne. Je crois qu'on a dénommé ça la terreur blanche, hein, la loi martiale à Taïwan pendant 38 ans. Et je crois qu'aujourd'hui encore existe un comité de restitution des biens mal acquis par le Kuomintang, qui était à l'époque le parti unique et qui est maintenant dans l'opposition. Ça rappelle en quelque sorte l'épuration, si j'ose dire, dans certains pays ex-communistes d'Europe.
Alors la terreur blanche, c'est effectivement une expression qui a été inventée en fait très récemment dans les années 90, mais qui désigne la première partie de cette loi martiale dans les années 50 qui conduisait le gouvernement qui venait de perdre la guerre civile et qui avait très peur de disparaître et son régime avec, la République de Chine donc, qui conduisait ce régime à faire une vraie chasse contre tous les opposants réels ou supposés, et notamment auxquels on prêtait une sympathie communiste. Donc ça a été une épuration à l'époque, effectivement. La dictature s'est très vite assouplie pour devenir un régime développementaliste, autoritaire, mais très différente de la nature totalitaire du régime qui se mettait en place. Enfin, sauf qu'elle est restée évidemment un état-parti, développementaliste et capitaliste, hein, c'était la nature particulière de ce régime, dans lequel il y avait un certain nombre d'interdits, mais en dehors desquels tout était, relativement permis, pour peu qu'on ne touche pas à la question de l'indépendance, de la légitimité du régime, qu'on ne fasse pas appel l'apologie du communisme, etc. Mais aujourd'hui, tout a beaucoup changé. La démocratie a été instaurée progressivement à partir de la fin des années 80, et petit à petit, les alternances se sont succédées jusqu'à que très tardivement, la dernière alternance, c'est-à-dire celle de 2016, permette enfin de mettre en place une sorte de politique de alors je n'ose pas dire de réconciliation, parce que justement elle est critiquée pour être un petit peu idéologique par certains côtés, mais d'évaluation des torts causés par ce régime d'État-parti, des profits faits par le parti nationaliste et de restitution à l'État de ses biens.
Mathieu Duchâtel, je retourne vers vous pour que vous nous expliquiez le statut tout à fait singulier de Taïwan, qui n'est pas membre de l'ONU et qui en fait n'est pas reconnu par à peu près l'ensemble des démocraties du monde. Il n'est reconnu, si j'ai bien compris, que par une poignée de tout petits États d'Amérique latine et du Pacifique.
Tout à fait, pendant une longue période. Après le repli à Taïwan de la République de Chine, jusqu'en 1971, la République de Chine à Taïwan représentait la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle en a été exclue en 1971 du point de vue chinois, à la campagne menée par la Chine pour tourner l'Assemblée générale contre Taïwan. À partir de 1972 et de la visite de Kissinger en Chine, le moment Nixon, le retournement américain contre Taïwan et envers la Chine, a ouvert une période où tous les pays ont rompu avec la République de Chine, tous les grands pays. Les derniers grands pays à rompre sont l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud dans les années 90. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une quinzaine de pays qui reconnaissent la République de Chine à Taïwan. Ce sont essentiellement des États du Pacifique, d'Amérique latine.
Mais qui décrochent petit à petit, hein, parce que les pressions de Pékin sont telles.
Tout à fait.
Donc la République dominicaine a rompu les liens.
La République dominicaine a rompu récemment. Le Panama a rompu récemment. Entre 2008 et 2016, quand le Kuomintang était au pouvoir à Taïwan, Pékin et Taipei s'étaient entendus, alors indirectement, pour une trêve diplomatique qui permettait à Taïwan de ne plus avoir à subir des ruptures diplomatiques avec ses partenaires. La Chine a rompu cette trêve après la victoire de Tsai Ing-wen et du Parti démocrate progressiste en 2016 à Taipei, et a repris sa politique qui consiste à supprimer l'espace international qui reste à Taïwan.
Alors l'ambiguïté la plus extrême concerne les relations entre Washington et Taipei. Donc il n'y a pas de relation diplomatique, néanmoins il y a un soutien militaire garantie par Washington.
Alors, c'est l'effet du Taiwan Relations Act, qui est un acte du Congrès, passé par le Congrès après la rupture diplomatique entre les États-Unis et la République de Chine à Taïwan, donc en 1979, qui régule les relations des États-Unis avec Taïwan et qui engage la branche exécutive à fournir à Taïwan les moyens de se défendre. Donc c'est un outil vraiment très spécifique de politique étrangère américaine qui n'est pas un traité, mais qui régule de manière unilatérale les relations des États-Unis avec Taïwan.
Mais l'administration Trump insiste périodiquement sur ce soutien, et Taïwan compte des amis actifs et anciens, à commencer par Bolton, qui est maintenant le conseiller pour la sécurité. Et aussi Pompeo, je crois, l'actuel secrétaire d'État.
Tout à fait. Alors, il y a un moment qui est vraiment très, très spécifique, là, sur une période d'une vingtaine d'années pour Taïwan, qui est que l'administration américaine, l'administration républicaine, a beaucoup d'amis de Taïwan, voilà, dans la branche exécutive. Et donc, les Américains essaient, dans les contraintes qui leur sont fixées par la nature de leur relation avec la Chine et par le Taiwan Relations Act, d'approfondir les échanges qu'ils ont avec Taïwan.
Et notamment touristique, enfin.
Tout à fait. Il y a eu le passage du Taiwan Travel Act, qui autorise des officiels américains à se rendre à Taïwan à un niveau plus élevé. Donc, il y a un véritable regain de soutien de l'administration Trump à Taïwan.
Françoise Nicolas, on ne vous a pas encore entendu. Vous dirigez le Centre Asie de l'IFRI. Ce qui est tout à fait singulier pour en revenir à ce discours du président Xi Jinping du 2 janvier, c'est qu'il propose à Taïwan le même statut que Hong Kong, donc un statut imposé plutôt que proposé à Hong Kong en 1997, quand la Grande-Bretagne a rendu les clés en quelque sorte. Donc un pays, deux systèmes, le moins que l'on puisse dire, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong avec une répression accrue de toute forme de liberté d'expression et de liberté politique, c'est pas très tentant.
Non, inutile de vous dire que la proposition n'a pas été chaleureusement reçue du côté de Taipei. Les relations entre la Chine et Taïwan sont assez singulières. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'isolement diplomatique de Taïwan. Bon, il est réel, effectivement, et l'an passé, il me semble que sur la seule année 2018, Taïwan a perdu 3 de ses soutiens, le dernier en date étant le Burkina Faso. Mais il y a un autre domaine dans lequel Taïwan se retrouve très isolé, c'est le domaine commercial. Et là, de manière assez étonnante, Taïwan fait partie de l'OMC. C'est la seule organisation internationale.
L'Organisation mondiale du commerce.
Oui, Organisation mondiale du commerce. C'est la seule organisation internationale dont Taïwan fait partie en tant que membre à part entière. Alors, la raison pour laquelle la République de Chine a ce statut un peu exceptionnel, c'est qu'elle n'y est justement pas membre en tant que République de Chine. Elle est membre en tant que territoire douanier spécifique.
Et donc c'est oui, de l'art d'inventer en caractère chinois toutes sortes de subtilités.
Oui, mais là c'est acceptable du point de vue de Pékin parce que le fait est que sur le plan strictement commercial, Taïwan est dans une situation un peu différente du reste de la Chine. Donc c'est pour ça qu'elle a ce statut. Mais c'est la seule organisation dans laquelle elle a vraiment ce statut de membre à part entière. Elle a le statut d'observateur, si je ne m'abuse, dans un certain nombre d'autres organisations.
Mais elle n'est même pas à l'Organisation mondiale de la santé. Hein. Je crois qu'elle voulait
elle était en tant qu'observateur. Oui. Et elle n'a même plus droit, effectivement, d'y siéger en tant qu'observateur, Pékin faisant barrage. Mais Pékin, du coup, fait barrage aussi à d'autres initiatives que Taïwan voudrait prendre pour essayer de rompre cet isolement sur le plan économique. Et en particulier, Pékin fait pression sur un certain nombre de pays avec lesquels Taïwan serait intéressé d'avoir des accords de libre-échange. Et du coup, il y a simplement deux pays un peu importants avec lesquels Taïwan a réussi à passer de tels accords, c'est Singapour et la Nouvelle-Zélande.
Et aucun pays européen ?
Non, aucun pays européen. Les discussions autour d'un possible accord de libre-échange avec l'Union européenne réémergent cycliquement, mais pour l'heure, ça n'est absolument pas envisageable. Et pour être honnête, je pense que la raison pour laquelle Taïwan a réussi à arracher ces deux accords de libre-échange à Singapour et Nouvelle-Zélande, c'est essentiellement dû au timing. C'était en 2010 et la période à cette époque-là était un peu plus favorable et donc du coup Pékin ne s'est pas opposé à cela. Mais l'objectif ultime de la part de Taïwan était vraisemblablement de se rapprocher de ces pays pour ensuite briguer une place dans le partenariat transpacifique. Et ça n'a pas été fait, bien entendu.
Mais avec quels atouts cette petite île a-t-elle réussi à devenir la 23e économie mondiale et avec, semble-t-il, des réserves de devises tout à fait considérables?
Là, je pense que le cas de Taïwan est tout à fait comparable au cas des autres dragons asiatiques, comme on les appelait à l'époque. Lorsque vous avez peu de ressources, il faut avoir beaucoup d'imagination. Et c'est exactement ce que...
Et un bon système éducatif.
Bon système éducatif, une capacité d'innovation forte. Et donc, c'est comme ça que Taïwan, un peu à l'instar de la Corée du Sud, a réussi à s'imposer dans un certain nombre de secteurs de technologies avancées. Et c'est pour ça que Taïwan est en pointe dans le secteur de l'électronique, par exemple. Et sans Taïwan, Apple se porterait assez mal, je pense.
Et avec quelques marques dont on ignore d'ailleurs qu'elles sont taïwanaises, comme Asus, je crois, enfin de différentes...
Asus et Acer sont, je pense, malgré tout, les marques les plus connues. Ouais. Mais effectivement, Taïwan n'est pas du tout la même posture que la Corée, qui, elle, a beaucoup plus joué sur les marques. Et on n'a pas d'équivalent de Samsung, si vous voulez, du côté taïwanais. Par contre, ce qui est vrai, c'est que en tant que fournisseur de pièces détachées, de composants pour le secteur électronique, Taïwan est absolument crucial. Et sans Taïwan, je pense que le secteur électronique aurait beaucoup de difficultés.
Mais Pékin déploie de grands efforts pour attirer des groupes, des entreprises taïwanaises à s'établir en Chine continentale.
Oui, ça c'est une stratégie récente de Pékin qui fournit des incitations à la fois aux entreprises, mais aussi à destination des étudiants, pour attirer tout ce beau monde sur le territoire de Chine continentale, l'idée ultime étant bien entendu de les faire changer d'avis en quelque sorte à propos du régime communiste. Et là, l'idée, c'est de les attirer et c'est de les faire rester sur le territoire de Chine continentale. Bon, pour l'heure, je ne suis pas sûr que cette stratégie fonctionne très bien, d'autant plus que le ralentissement de l'économie chinoise va peut-être inciter les entreprises, au contraire, à quitter le territoire de la Chine continentale et à retourner soit à Taïwan, soit vers d'autres horizons, en particulier vers l'Asie du Sud-Est.
Stéphane Corcuff, merci d'être avec nous par téléphone depuis Lyon, où vous enseignez à Sciences Po. Je rappelle que vous avez dirigé l'antenne de Taipei, donc à Taïwan, du Centre d'études français sur la Chine contemporaine. Que peut être aujourd'hui l'identité taïwanaise? Il y a quoi? Il y a quelques 23 millions d'habitants. Françoise Nicolas évoquait donc ces étudiants taïwanais qui sont attirés dans les grandes universités de Chine continentale. Ça existe, l'identité taïwanaise?
Oui, bien entendu. Sachant que, évidemment, toute identité est construite donc à Taïwan comme ailleurs. Et si elle est construite, elle peut évoluer. Elle a beaucoup évolué ces dernières années dans le sens d'un consensus généralisé sur le fait que quand on est né à Taïwan et qu'on est citoyen de la République de Chine, bon, en l'occurrence Taïwan, on est taïwanais. Alors évidemment, c'est pas un consensus général, on a des formules différentes, on a des horizons aussi différents, on peut se sentir taïwanais et souhaiter une réunification dans le cadre d'une Chine démocratique, etc. On peut être taïwanais et plutôt nationaliste taïwanais et souhaiter l'indépendance, ou plutôt, pour être plus précis, le changement de nom du régime. Hein, Mathieu Duchâtel et moi l'avons rappelé, donc il s'appelle bien la République de Chine, donc il s'agirait de transformer ça en République de Taïwan. Donc il y a des différences évidemment de point de vue, mais il y a quand même un consensus absolument général et qui a été renforcé à Taïwan considérablement par les déclarations du président Xi du 2 janvier, que Taïwan c'est Taïwan, qu'il est hors de question d'accepter une unification avec la République populaire de Chine et a fortiori si c'est sous la pression militaire.
Néanmoins, il y a une grande prudence, semble-t-il, y compris de la part du parti au pouvoir et de la présidente de Taïwan, quand il s'agit d'employer le terme « indépendance ».
Oui, c'est un vocabulaire qui est relativement banni du discours politique taïwanais, sauf chez les militants, disons, hors cercle de pouvoir. Il est rarement employé par des hommes politiques ou des femmes politiques au pouvoir ou des parlementaires, quoique le premier ministre qui vient de changer à Taïwan, celui qui est parti, donc subtilement, avec une sorte d'échange de rôle avec la présidente, jouait le rôle de celui qui osait dire tout fort ce que la présidente, elle, ne pouvait pas dire clairement, c'est-à-dire que, bon, le régime s'appelle la République de Chine, mais en fait, concrètement, c'est Taïwan, qu'il est hors de question d'envisager une indépendance et qu'on se sent tous taïwanais. Mais la présidente, elle, même présidente issue d'un parti démocrate progressiste, dont une partie de la plateforme tire plutôt vers la nation taïwanaise indépendante, ne se permettra jamais d'employer des termes comme ça. D'abord, elle est élue président de la République de Chine et non pas d'une République de Taïwan qui n'existe pas. Et ensuite, ce serait vraiment jouer avec le feu. Donc, leur stratégie, d'ailleurs, comprendre ça nous permet de comprendre qu'à travers les quatre présidences successives depuis les années 90, et en dépit des alternances politiques, on a une ligne centrale que tout le monde respecte. Comprendre ceci nous permet de comprendre que tous les présidents successifs, en fait, qu'ils regardent vers une unification à terme, ou une indépendance, enfin entre guillemets, un changement du nom du pays à terme, jouent dès qu'ils sont en fonction, quelle que soit leur plateforme électorale, le jeu de la République de Chine qui est tout simplement le seul instrument de souveraineté réelle, concrète, indiscutable, même si la Chine le nie, qui soit dans les mains des Taïwanais. Donc, il serait fou de scier cette branche sur laquelle ils sont assis.
Que disent les sondages ? On sait qu'il y a eu des élections locales et municipales, je crois, en novembre dernier, qui ont d'ailleurs été perdues par la présidente et par le parti au pouvoir. La présidente reste en fonction. Que disent les sondages sur la manière dont les Taïwanais, précisément, évaluent ou apprécient les relations avec Pékin ?
On a trois grands types de sondages qui nous intéressent sur ces questions. La popularité des présidents et donc de leur politique. La façon dont les Taïwanais envisagent l'avenir, plutôt indépendance ou unification. Et puis la façon dont ils jugent la politique de la présidente. Alors, pour faire simple, peut-être concentrons-nous sur cette dernière façon d'apprécier les choses. La défaite électorale du Parti démocrate progressiste de novembre n'a en rien mis en cause la politique continentale de la présidente. Ce sont deux questions plus ou moins liées, mais il était clair que ces élections qui étaient locales ne portaient pas sur les relations entre les deux rives. Voilà, donc ça, le consensus reste inébranlé. Et ce qui est intéressant, c'est que là où, Taïwan était un petit peu, enfin très basse même dans les sondages après cette défaite cuisante, elle a remonté de manière très significative après cette réponse très nette, très ferme qu'elle a faite à Xi Jinping. Mais tout à l'heure, je disais que les identités sont construites et que donc elles évoluent et qu'elles ont évolué jusqu'à présent dans le sens d'un consensus taïwanais national. Mais dire ceci, c'est aussi dire que ça peut changer également dans l'autre sens. Donc, en fonction des données géopolitiques et notamment de ce qui se passe en Chine. Et c'est très compliqué parce que ces derniers mois, l'identification des Taïwanais à l'idée qu'ils seraient Taïwanais exclusivement, elle patine. Elle n'est plus en croissance comme dans le passé, mais il faut comprendre ça aussi dans le contexte où elle n'a cessé de croître depuis 25 ans. Donc on arrive, si vous voulez, à une sorte de saturation du marché identitaire, j'ai envie de dire. Mais il suffit que Xi Jinping montre des dents, même derrière des mots qu'il espère convaincants de sa bonne foi de dictateur, en fait, qui veut tout simplement supprimer l'autonomie de ce régime, pour que tout de suite ça resserre les rangs des Taïwanais. Donc la Chine se prend le pied dans le tapis à chaque fois, pour une raison qui est très simple, je crois qu'il faut la clarifier. Même si ça n'était pas réaliste d'imaginer que la Chine de Mao puisse le faire à l'époque. Hein. Il suffit de penser que la Chine à l'époque ait accepté de reconnaître que la République de Chine continuait à exister et qu'on ait eu un modèle à l'allemande de deux États chinois représentés à l'ONU pour que, en fait, la Chine ne soit pas prise dans une contradiction permanente. Que peut-être, mais c'est un scénario fiction, un peu de l'Uchronie, elle aurait eu plus d'arguments pour convaincre les Taïwanais, ça c'est du peut-être, mais ce qui est certain, c'est que n'ayant pas fait ça pour des raisons sans doute compréhensibles, elle se trouve constamment à se prendre le pied dans le tapis en proposant des choses aux Taïwanais dès qu'elle lâche du lest. La Chine considère qu'ils en profitent pour prendre le large, et dès qu'elle montre les dents, évidemment, ils resserrent les rangs derrière l'indépendance taïwanaise.
Alors précisément, Eric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International, notre partenaire. Expliquez-nous qui est cette présidente de Taïwan qui paradoxalement a repris en quelque sorte du poil de la bête grâce au président chinois.
Oui, et paradoxalement, elle peut dire merci à son pire ennemi, le numéro un chinois, Xi Jinping, car en l'espace de quelques semaines, elle vient d'enregistrer un bond de 10 points dans les sondages, rapporte le journal le Taipei Times. Cette hausse est intervenue dans la foulée du discours du président chinois du 2 janvier à propos de Taïwan, précise le quotidien. Le taux d'approbation de Tsai Ing-wen, qui avait chuté à 24%, est remonté à son plus haut niveau depuis 6 mois, grâce à la fermeté de sa réponse après le discours de Xi, poursuit le journal. Alors de quoi redonner un peu d'oxygène à la présidente taïwanaise, très affaiblie depuis la défaite électorale de son propre parti, c'était en octobre dernier. Cette femme de 62 ans qui est devenue en 2016 la première présidente de Taïwan, mais aussi, nous rappelle le Financial Times, la première femme à diriger une nation de langue chinoise depuis l'impératrice Wu Zetian au 7e siècle, refuse de se laisser impressionner par cette ligne dure empruntée par Pékin. Une attitude qui suscite l'admiration des 23 millions de Taïwanais, note le New York Times, qui raconte que des mots d'encouragement pour Madame Tsai inondent les réseaux sociaux de l'île. L'un d'entre eux, poursuit le journal, est même devenu viral. Il la dépeint comme une mère protégeant son enfant face à un tyran. Cette politique de défense de l'identité de Taïwan tranche avec celle qui a été menée par son prédécesseur, Ma Ying-jeou, qui avec son parti, le Kuomintang, jouait, lui, la carte du rapprochement avec la Chine populaire. Dès son élection, Tsai Ing-wen a promis une nouvelle ère. 3 ans après son arrivée au pouvoir, cette juriste de formation, qui est diplômée de la prestigieuse London School of Economics, continue de faire valoir sa différence, quitte évidemment à irriter Pékin.
Mais sur le plan intérieur, il lui reste évidemment à surmonter plusieurs obstacles.
La question que tout le monde se pose à présent, c'est de savoir si cette admiratrice d'Angela Merkel pourra compter sur ce regain actuel de popularité. Le journal hongkongais Mingpao est lui plutôt sceptique. Entre les pressions renforcées du continent pour la réunification d'un côté, la montée du sentiment d'urgence du clan indépendantiste de l'autre, Tsai Ing-wen dispose d'une marge de manœuvre politique très réduite, peut-on lire dans ce journal de Hong Kong. Après les élections perdues de cet automne, Tsai Ing-wen doit retrouver le charisme qui lui avait permis d'emporter la présidentielle de 2016 en surmontant les divisions au sein d'ailleurs de sa propre formation, le Parti démocrate progressiste. Mais au-delà de ces querelles politiques, ce qui compte le plus, c'est la confiance que cette ancienne professeure de droit, qui vit seule avec ses deux chats d'ailleurs qui sont très populaires puisqu'ils ont eux-mêmes une page Wikipédia, eh bien cette confiance qu'elle inspire au peuple taïwanais. Or, comme le résume un politologue de Taipei interviewé par le New York Times, la réponse de Madame Tsai à Pékin a paru très présidentielle. À un an du prochain scrutin présidentiel, nul doute que cette attitude devrait continuer à la servir.
France Culture. Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Benoît de Tréglaudet, bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, spécialiste des Asies, ai-je envie de dire. Ce qui est très intéressant quand on voit la manière dont la Chine représente le monde. C'est évidemment l'empire du milieu, donc elle se situe au milieu du monde, ce qui est à l'opposé de nos habitudes à nous, grâce à Mercator, qui était ce géographe flamand au XVIe siècle, qui a établi une carte qui fait toujours autorité, mais là, l'Europe est au centre. Quand on regarde la carte vue de Chine, on s'aperçoit évidemment, par cercle concentrique, qu'il existe plusieurs théâtres asiatiques, ce qu'on a tendance à négliger.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, cette nouvelle intransigeance et dans ces déclarations récentes de Xi Jinping vis-à-vis de Taïwan, c'est que ça interroge, en fait, de manière plus globale, la Chine et sa politique étrangère. Et on parle généralement de la Chine et sa diplomatie du pourtour. Donc, pour Pékin, il n'y a pas une diplomatie asiatique homogène. Il y a trois angles, les trois angles de l'Asie, l'Asie orientale, l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud. Et ce qui est étonnant, c'est que quand l'un de ces angles est en feu, ou tout au moins connaît certaines tensions, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Asie orientale, Pékin essaye d'adoucir ses relations avec les deux autres sous-régions. Et là, de ce point de vue, on a une politique qui est complètement différente de la Chine vis-à-vis de l'Asie du Sud-Est. Je pense que depuis 2015, 2014, date d'une crise importante entre la Chine et l'Asie du Sud-Est suite à la crise de la plateforme pétrolière.
Ça, c'était avec le Vietnam.
Hein. Avec le Vietnam, mais bon, qui a eu des répercussions globales dans la région. Les relations sont beaucoup améliorées. Et de même avec l'Asie du Sud, le récent sommet de Wuhan en novembre dernier, qui a réuni le Premier ministre Modi et Xi Jinping, montre des avancées dans ce sens. Donc c'était étonnant, c'est que si ça crise, entre guillemets, à Taïwan, il faut absolument que les choses soient plus pacifiques dans les deux autres angles de l'Asie.
Donc, le pourtour, c'est ce que vous appelez l'Asie orientale. Donc ça, c'est...
Le pourtour, c'est... Pour faire simple, c'est les 22 000 kilomètres en fait de frontières terrestres chinoises. C'est tout ce qui se passe avec la partie orientale, le nord, le Japon, la Corée et Taïwan. C'est le grand ensemble en fait qui est le ventre mou de la politique étrangère chinoise, d'une certaine façon, de l'Asie du Sud-Est. C'est 10 pays de l'ASEAN plus le Timor oriental, et c'est toute la façade sud qui est très diverse, mais surtout centrée autour de l'Inde.
Avec un espace maritime. Sur lequel, de façon assez éclatante et à coup d'investissement immense dans le renforcement de la marine militaire chinoise, c'est là où la présence de Pékin se fait de plus en plus insistante.
Oui, et d'une certaine manière, les choses avancent aussi dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'elles avancent pour pouvoir mieux reculer? Les déclarations communes de résolution des conflits avec l'Asie du Sud-Est sont enfermées dans des discussions insolubles depuis plus d'une vingtaine d'années.
Et surtout sur les îles. Hein. Alors là,
autour des îles, tout, mais on l'a oublié. En novembre dernier, ont eu lieu en octobre les premières manœuvres communes entre la Chine et les pays de l'ASEAN. Entre les marines de ces partenaires. Donc c'est aussi des choses qui montrent que Pékin ne veut pas jouer uniquement la confrontation, mais est également en train de penser à une autre solution, qui est une solution de coopération pour avancer également ses pions dans ces sous-régions-là.
Et alors la coopération, évidemment, elle est d'abord économique et commerciale, avec des liens de plus en plus étroits en Asie, avec les dragons d'Asie du Sud-Est.
Elle est naturellement commerciale, avec tous ces projets de route de la soie qui doivent enserrer en fait la Chine avec l'ensemble de ses partenaires. Rappelons de ce point de vue que l'Inde de Modi n'a pas voulu participer à la dernière rencontre en fait qui réunissait tous les partenaires de la route de la soie, parce que il y a quand même une rivalité qui est forte. Et puis New Delhi perçoit en fait les avancées économiques de la Chine dans son pourtour à lui, dans sa zone périphérique, en fait les fameux pays qui entourent et qui sont au centre de la diplomatie indienne, le Sri Lanka, le Bhoutan, le Bangladesh et le Pakistan, comme étant une certaine ingérence dans son précaré. Alors qu'avec l'Asie du Sud-Est, mois d'août dernier, en fait, Pékin a signé un draft en fait de code de conduite qui doit amener en fait la Chine et l'ensemble des pays de la zone à trouver des résolutions sur les questions de rivalité maritime en mer de Chine méridionale.
Néanmoins, il y a toujours, sinon des incidents, en tout cas des risques d'inflammation, si j'ose dire, à propos en particulier de tous ces îlots qui sont disputés tantôt entre le Japon et la Russie, tantôt entre le Japon et la Corée du Sud. C'est quand même...
Bien sûr. Alors, vous rencontrerez un diplomate d'Asie du Sud-Est, la plupart vous répondront ça va durer 100 ans, on ne trouvera pas de solution aujourd'hui. Mais d'une certaine manière, les universitaires vous diront que il y a 20 ans, ces questions de mer de Chine méridionale, elles préoccupaient pas tellement les diplomates chinois. Donc c'est quelque chose d'assez récent.
Vous citiez l'Inde, qui est évidemment l'autre mastodonte démographique, sinon économique. L'Inde n'a pas encore l'extraordinaire mode de propulsion technologique de la Chine. Jusqu'à quel point est-ce que les rivalités entre l'Inde et la Chine dessinent désormais une nouvelle carte dans cette partie du monde?
Pour le moment, Modi refuse cette rivalité. Le Premier ministre indien fait tout pour pouvoir renforcer ses liens et se faire accepter par Xi Jinping. Et les tensions et les enjeux de cette rivalité de demain, parce qu'elle n'est pas une rivalité d'aujourd'hui, elles sont repoussées aux pays limitrophes de l'Inde. Donc on sent que, véritablement, les Indiens n'ont pas encore les ambitions de leur diplomatie ou de leur politique étrangère. Et c'est une rhétorique souvent assez déclamatoire. Quand on pense à la politique indienne vis-à-vis de l'Asie du Sud-Est dans les années 2000, pas grand-chose ne s'est produit dans les faits, en fait, 20 ans après. Donc il y a, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les Indiens n'ont pas envie de rentrer directement en confrontation ou en rivalité avec le puissant voisin chinois.
Valérie Niquet, bonjour. Voyons maintenant comment on voit les choses du point de vue de Tokyo. Je rappelle que vous êtes la responsable du pôle Asie et la Fondation pour la recherche stratégique. Jusqu'à quel point est-ce que pour le Japon, la question de Taïwan reste épineuse dans sa propre politique régionale et évidemment dans ses relations avec Pékin?
Alors, le Taïwan est devenu beaucoup plus important depuis l'arrivée au pouvoir de Shinzo Abe, qui en a fait non pas vraiment une priorité, mais en tout cas les relations se sont beaucoup resserrées. Déjà, une partie du PLD était très proche du régime taïwanais, et là les relations se sont beaucoup resserrées entre Taïwan et le Japon, y compris d'ailleurs sur les questions territoriales, puisque la question territoriale qui oppose le Japon à la Chine autour des îles Senkaku est également une question pour Taïwan, mais ça s'est résolu d'une manière beaucoup plus moins tendue entre Taïwan et le Japon. Et par ailleurs, le Japon a développé ses capacités de défense depuis quelques années, et notamment renforcé ses capacités d'action auprès des États-Unis, ce qui, en cas de conflit dans le détroit de Taïwan, évidemment, imposerait à Tokyo non pas de s'impliquer peut-être directement dans un conflit avec la Chine, mais en tout cas d'offrir un appui au moins logistique aux forces américaines. Donc la question de Taïwan pour le Japon est absolument essentielle, et non seulement tout simplement parce que également, encore une fois, s'il y a des tensions trop fortes qui se développaient entre Taïwan et la République populaire de Chine, eh bien évidemment ça susciterait une crise à la fois stratégique et économique dans l'environnement proche du Japon, qui aurait des répercussions très importantes sur la stabilité de l'archipel.
On sait que le Premier ministre japonais a rencontré Vladimir Poutine il y a quelques jours pour une énième discussion sur le sort des îles Kouriles, ces îles qui sont disputées entre la Russie et le Japon depuis toujours, ai-je envie de dire. Est-ce que cet échec renforce d'une certaine manière le relatif isolement du Japon aujourd'hui?
Alors, c'est pas que le Japon a tendance à être marginalisé. On le sait, la question nord-coréenne également, et il attend surtout de voir comment les choses vont évoluer. Sur la Russie, évidemment, les choses sont très longues, très compliquées. Ceci dit, Poutine et Abe se parlent régulièrement, et l'entretien qui a eu lieu il y a quelques jours a duré plus de 3 heures. Il portait pas uniquement sur la question des Kouriles, évidemment c'est un point d'achoppement essentiel, mais il portait sur l'objectif que les deux chefs d'État ont proclamé, qui est d'aboutir à la signature d'un traité de paix. Et c'est après la signature éventuelle d'un traité de paix, qui n'existe toujours pas, il faut le rappeler, entre la Russie et le Japon.
Il y a aussi
les Kouriles pourraient être résolus éventuellement.
Et il semble-t-il qu'il y a un regain de tension aussi entre Tokyo et Séoul, la Corée du Sud. Et ce, au moment où l'administration Trump met en avant, pour différentes raisons de politique intérieure aussi, la probabilité d'une nouvelle rencontre avec le dirigeant de la Corée du Nord.
Voilà, effectivement, les relations entre Tokyo et Séoul ne sont pas bonnes. Ce qui est assez surprenant dans la mesure où il y a eu un rapprochement, par exemple, avec la Chine, avec la Corée du Sud, avec lequel le Japon partage tout de même le même type de système politique et d'intérêts communs, surtout dans la région, eh bien, il y a ce poids des questions historiques qui revient pour, notamment avec des décisions prises récemment par la Cour suprême de Corée du Sud contre les entreprises japonaises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tokyo reste intransigeant sur ces questions, sans voir peut-être l'ensemble du paysage stratégique et des enjeux qui devraient être pris en compte. Les deux sont liés, encore une fois, par un même intérêt stratégique, sauf qu'aujourd'hui, la Corée du Sud veut se rapprocher de la Corée du Nord, que Tokyo est plutôt favorable au maintien de sanctions strictes, mais n'a pas grand chose à dire. Tout ceci est évidemment lié à des jeux politiques internes, essentiellement en Corée du Sud, où il y a quand même un contentieux très important entre plusieurs orientations politiques, y compris sur le rôle de la des élites coréennes pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis évidemment au Japon, où Abe ne fait pas partie de ceux qui sont le plus favorables à, entre guillemets, une remise en question le Premier ministre japonais fait plutôt partie de ceux qui ont envie de réaffirmer la légitimité du Japon, y compris d'un point de vue historique.
Merci Valérie Niquet d'avoir été avec nous par téléphone. Benoît de Tréglaudet, quand on essaie de comprendre encore une fois dans cette partie du monde la manière dont les nouveaux rapports de force évoluent, on voit bien que le retrait de Washington depuis 2 ans et surtout depuis que Donald Trump, faisant évidemment tout le contraire d'Obama, a retiré les États-Unis de sa participation au traité transpacifique qui était censé établir une immense zone de libre-échange dans cette partie du monde. Jusqu'à quel point est-ce que le retrait de Washington facilite évidemment l'influence de Pékin ?
Alors bien sûr, la nature a horreur du vide. Et en Asie du Sud-Est, ce retrait ou ce relatif retrait en fait des Américains a conduit en fait les Chinois à être présents au quotidien auprès des diplomaties des 11 pays de la zone et à offrir ce dont ces pays avaient besoin. Un, naturellement, des fonds, de l'argent. La Banque asiatique de développement estime que ces pays auront besoin de 1,7 milliard de dollars chaque année pour pouvoir moderniser leurs infrastructures. Donc il y a un vrai besoin d'argent. Pékin arrive avec de l'argent, donc c'est difficile de fermer la porte. Et secondement, effectivement, c'est un paysage institutionnel qui est en train également de se transformer avec des régimes qui sont, on va dire, de moins en moins démocratiques et l'approche plus pragmatique de la diplomatie chinoise plaît dans cette région. Et donc, à la fois économiquement et politiquement, il y a finalement pas mal d'intérêt d'être moins intransigeant vis-à-vis de la politique chinoise et du départ ou de la timidité des ambitions américaines aujourd'hui.
Françoise Nicolas, il est évident que sur le plan économique et commercial, là aussi, les rapports de force évoluent en faveur de Pékin.
Oui, mais je serais peut-être un peu plus prudente que Benoît sur la place prise par la Chine dans cette zone d'Asie du Sud-Est. Il est clair que la Chine arrive avec des fonds et que ces fonds sont bienvenus. Ça, c'est évident. Cela étant, ce qu'on voit apparaître quand même depuis un an à peu près, ce sont quelques réticences sur les conditions dans lesquelles ces fonds sont octroyés. Donc on a quand même de légères résistances et l'exemple le plus emblématique, c'est la Malaisie. La Malaisie n'a pas voulu complètement accepter les conditions dictées par Pékin. Donc elle n'a pas annulé complètement les projets, contrairement à ce que pas mal de gens racontent, mais elle a reporté un certain nombre de ses projets, notamment le projet de ligne ferroviaire sur la côte est de la Malaisie. Et la raison pour laquelle le Premier ministre Mahathir a demandé cela, c'est parce qu'il trouvait les conditions inacceptables.
Donc là, une suggestion de...
Oui, et bon,
il y a quelques scandales aussi.
Les conditions, c'était que on paye même si les travaux ne sont pas faits. On n'a jamais vu ça nulle part ailleurs, mais il y a un calendrier de paiement, quelle que soit l'avancée des travaux. Donc là, Mahathir a dit non, là, ça va juste pas. Donc là, il a demandé la négociation des
termes. François, il y a aussi quelques scandales énormes.
La raison pour laquelle Mahathir aussi a voulu reporter tous ses projets, c'est parce qu'il voulait s'inscrire complètement dans une logique différente de son prédécesseur, qui avait pour le coup, lui, accepté les largesses de Pékin sans barguigner. Oui. Bon, donc il y a les deux raisons. Il y a les raisons de politique intérieure, et puis il y a quand même aussi des raisons objectives qui sont que les conditions imposées n'étaient simplement pas acceptables. Donc tout ça pour dire qu'on voit quand même dans la région quelques réticences, même au Laos. Il y a des discussions en interne au sein du parti en place. Parti communiste et pourtant petit pays qui n'est pas tellement en mesure de résister à Pékin. Et même là, il y a quand même des discussions sur les conditions qui sont imposées par Pékin. Donc on voit des réticences ici ou là et des résistances ici ou là.
En revanche, les Philippines, le charmant monsieur Duterte est allé
Là aussi,
s'incliner.
Malgré tout, il y a une petite ambiguïté. L'ambiguïté peut-être, enfin certainement beaucoup plus marqué dans le cas de la Thaïlande, qui, elle, louvoie allègrement entre le Japon d'une part et la Chine de l'autre, et ne voit pas du tout d'inconvénient à accepter en réalité de l'aide des deux côtés. Donc, voilà, le rouleau compresseur chinois ne trouve pas un terrain parfaitement libre face à lui. Il y a malgré tout des réticences, des résistances qui montent, me semble-t-il.
Stéphane Korkuff, quel est le rôle de la diaspora chinoise qui est quand même, il y a au moins je crois 30 millions de Chinois qui sont installés et qui jouent souvent un rôle considérable dans tous ces pays.
Alors historiquement, c'est un vrai sujet de dispute entre les deux régimes qui se voyaient chinois, c'est-à-dire celui de Chiang Kai-shek et celui de Mao Zedong. Donc ils se sont disputés les réseaux chinois d'outre-mer pendant des décennies. Et puis on a vu cette querelle un petit peu s'affaiblir dans les années 80 et sans doute, je pense plus précisément 90, au moment où finalement Taïwan a un petit peu lâché ce réseau-là, pas complètement, mais a cessé de voir ça comme un enjeu fondamental dans la mesure où d'une part la Chine, dans les réformes qui étaient lancées à partir des années 80, commençait à attirer sérieusement les Chinois d'outre-mer, donc à faire pencher la balance de son côté, et dans la mesure où à partir des années 90, Taïwan a commencé à penser son identité insulaire, donc en se disant que peut-être la compétition avec Pékin sur les réseaux chinois d'outre-mer n'était plus une priorité idéologique. Voilà. Mais néanmoins, cette question reste fondamentale parce que Taïwan a besoin de ces réseaux pour pénétrer les pays commercialement, économiquement, culturellement, etc. Et quoique j'avais pas pensé en parler à ce titre-là, c'est peut-être une façon de rappeler que Taïwan, comme le disait Françoise, peine économiquement et commercialement partout, comme l'ont rappelé d'autres de nos collègues, politiquement également, Mathieu l'a dit, mais néanmoins, il faudrait peut-être pas imaginer Taïwan comme isolé du monde, je crois que c'est tout le contraire. Taïwan, en fait, paradoxalement, est extrêmement inventif, ça rejoint d'ailleurs un thème que Françoise Nicolas évoquait tout à l'heure sur le plan du décollage économique de l'île. Taïwan, aujourd'hui, est extrêmement inventif, via une diplomatie parallèle, des ONG, une diplomatie culturelle, une diplomatie publique. Et finalement, Taïwan commerce avec l'essentiel des pays du monde, des grands pays, représentés d'une manière ou d'une autre dans les grands pays du monde. Et surtout, par rapport à tous les débats qu'on vient d'avoir sur l'alliance entre Taïwan et les États-Unis, l'attitude de Xi Jinping et cette montée peut-être d'une relative défiance face à la Chine, dont on vient de parler à l'instant même, je pense qu'il y a il y a des causes, il y a des conséquences, il y a des actes qui entraînent des réactions, et je pense que peut-être s'inaugure aujourd'hui une phase dans laquelle la Chine, dans les réseaux chinois d'outre-mer, mais aussi chez nous, et particulièrement, c'est particulièrement clair aux États-Unis, commence à vraiment inspirer une défiance caractérisée, majeure, qui semble balayer beaucoup plus facilement qu'avant, disons, les discours un petit peu sino-béats qu'on pouvait entendre ici ou là. J'en veux pour preuve que la Chambre des représentants américaine a voté le 22 janvier, mardi 22 janvier, une loi à l'unanimité appelant le gouvernement américain à soutenir l'entrée de Taïwan à l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est bien l'OMS, c'est pas l'Assemblée mondiale de la santé comme observateur. Non, il s'agit bien d'une agence onusienne pour laquelle.
Mais c'est pas fait, hein. C'est loin d'être fait.
C'est pas fait. Non, bien entendu. Mais c'est un signe fort qui s'ajoute à beaucoup d'autres signes forts dont a parlé Mathieu tout à l'heure, par exemple. Et sur le cas précisément des relations Chine-Taïwan, qui est un merveilleux point d'observation de comment la Chine est reçue dans le monde, j'ai l'impression que cette cavalcade diplomatique qui retire ses alliés à Taïwan les uns après les autres et qui donne des sueurs froides quant à la survie même de ce régime dans le monde, on a une tendance contraire qui semble émerger et qui montre que à aller trop vite, trop loin et de manière trop brutale, la Chine pourrait finir par perdre complètement la partie. Sauf, évidemment, à passer à la guerre, ce qui nous ramènerait à une idée simple, mais qui, moi, m'habite depuis longtemps, qui est que, en fait, le jour où le rideau tombera, et on n'en est peut-être pas très loin, avec ces discours de plus en plus pointus, marqués, et pressants de la part de Pékin, on réalisera qu'on a une alternative, en fait, très simple. La poursuite du statu quo que la Chine ne veut pas voir continuer ad vitam aeternam est la guerre. Alors je ne suis pas en train de dire qu'elle arrive la guerre, mais ce que je dis c'est que derrière ce rideau de fumée, des paroles diplomatiques et des stratégies diverses, l'alternative est simple et c'est celle-là je crois.
Mathieu Duchâtel, précisément on arrive à la conclusion de cette émission. On voit que l'administration Trump a engagé une sorte de duel avec Pékin sur le terrain commercial, en tout cas, jusqu'à quel point est-ce que, pour des raisons qu'on pourrait qualifier de politique intérieure, correspondant aussi à un relatif ralentissement économique en Chine, Xi Jinping est contraint en quelque sorte d'accentuer les accents, le discours nationaliste tel qu'il l'a tenu début janvier.
Alors, je pense que à l'égard de Taïwan, ça ne va pas se produire d'ici les élections présidentielles et législatives à Taïwan qui auront lieu en janvier 2020. Il faut voir que avant les élections locales à Taïwan qui ont eu lieu donc en novembre dernier, on a eu 6 mois pendant lesquels l'armée chinoise a cessé de contourner l'île de Taïwan, qui est une approche, une posture que les Chinois ont pour menacer un petit peu les Taïwanais, pour leur dire que l'option militaire est sur la table. Là, ce que cherchent à faire les Chinois, c'est à créer les conditions pour qu'en 2020, le Kuomintang remporte ses élections et que Pékin ait un partenaire pour travailler à un accord politique avec les Taïwanais. Les élections de 2020 vont être extrêmement importantes. Soit on a une administration Kuomintang avec laquelle les Chinois essayent de travailler et avec qui ils tentent de pousser un accord politique, ce qui serait extrêmement difficile même pour le Kuomintang. Soit on a une administration qui va plutôt dans un sens indépendantiste avec le Parti démocrate progressiste. Et alors là, dans une configuration où l'administration Trump serait toujours là et toujours à soutenir Taïwan de manière très forte, on pourrait penser que les Chinois renforceront la pression qu'ils exercent sur Taïwan. Mais sur cette année 2009, donc sur le très court, sur cette année 2019, sur le très court terme, on peut penser que la Chine va plutôt jouer un petit peu des ouvertures envers les Taïwanais pour créer ces conditions pour que leurs alliés potentiels remportent ce scrutin.
Eh bien, merci à vous tous. Merci donc à Mathieu Duchâtel qui dirige le programme Asie à l'Institut Montaigne. Vous avez publié Géopolitique de la Chine dans la collection Que sais-je en 2017. Merci à Benoît de Tréglaudet qui vient de publier un ouvrage intitulé Mer d'Asie, mer au pluriel, Mer d'Asie du Sud-Est. Aux éditions CNRS 2018, un ouvrage que vous avez coordonné avec Nathalie Faux. Merci à Françoise Nicolas. Nous sommes habitués, Meryl Moneghetti est habituée à afficher les nombreuses publications de l'IFRI, bien évidemment sur notre site internet. Merci à Valérie Niquet qui a publié La puissance chinoise en 100 questions, un très bon ouvrage chez Talendier en 2017. Merci à Stéphane Korkuff qui, lui, a publié une tablette aux ancêtres aux éditions L'Asiathèque. C'est une étude d'anthropologie de la croyance et le culte des ancêtres dans le monde chinois. Voilà, je n'oublie personne cette fois-ci. Merci à Eric Scholl, à Luc-Jean Reynaud à la technique, à la réalisation ce matin, Élise Lue à la technique, Meryl Moneghetti, bien sûr, a préparé cette émission. Et dans quelques instants, comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.